Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent.
Ben, c'est toujours la consternation à Baltimore, au Maryland, à la suite de l'effondrement du pont Francis Scott Key, après que le porte-conteneur Dali, à la suite d'une perte de puissance, d'une perte de propulsion, ait percuté un des piliers du pont et il aura fallu 25 secondes pour que la structure s'effondre. Je rejoins l'envoyé spécial de TVA Nouvelles en direct à Baltimore, Yves Poirier. Salut Yves.
Oui, bonjour Alexandre.
Quels sont les derniers développements? Parce que j'entendais un point de presse là, des autorités en soirée qui disait que on doit mettre fin aux recherches. Et là, ben, on n'est plus dans une opération de recherche et sauvetage, mais bien recherche de corps. Là.
Exactement, effectivement, parce qu'on n'a pas jusqu'à présent retrouvé malheureusement les 6 corps de 6 hommes probablement. Là, on parle d'ouvriers qui colmataient ce soir-là en pleine nuit, là, dans la nuit de lundi à mardi, des nids de poules sur le pont. Ce que je peux te dire, c'est que je viens d'arriver d'une part dans la zone média qui est réservée. On est à peu près à quelques centaines de mètres du point d'impact là, sur le pont, ce qui en reste du moins de ce pont. La vue est assez tristement extraordinaire là, quand on regarde ça. Le porte-conteneur, en passant évidemment, est toujours là. C'est un porte-conteneurs qui a une capacité d'à peu près 10 000 conteneurs. Lors de l'impact, Alexandre, il y en avait à peu près la moitié, 4 600 à bord. On a vu ces images et revu les images de l'impact là, sur l'un des piliers du pont. Puis ensuite, tu vois le pont qui s'affaisse comme un château de cartes. Ce qu'on apprend ce matin de nouveau, d'une part, c'est qu'on commence à identifier avec l'aide des familles les pauvres victimes, les gens qui se trouvaient sur le pont. On parle de Miguel Luna, notamment, qui est un jeune homme, qui est père de 3 enfants, en passant, qui est originaire du Salvador, un pays d'Amérique centrale. Il se trouvait sur le pont lorsque le pont s'est écrasé. Il y a 2 autres ouvriers qui manquent à l'appel, qui eux sont originaires du Guatemala. Ça, c'est le gouvernement guatémaltèque qui a identifié hier, du moins a dit qu'il y avait 2 de ces ouvriers qui manquent à l'appel, qui sont originaires de son pays. On parle d'hommes de 26 et 35 ans. Mais jusqu'à présent, Alexandre, je le répète, les recherches qui ont été menées toute la journée dans les airs, sur l'eau et par les plongeurs n'ont pas été concluantes. On n'a pas réussi à trouver les corps. Est-ce que les corps ont été emportés quelque part par la rivière? Je l'ignore. Je peux te dire que depuis 6 heures ce matin, cependant, les recherches notamment menées par les plongeurs ont repris. La météo aujourd'hui, c'est pas l'idéal pour faire ce type de recherche parce que on attend de la pluie. Je sentais hier soir en direct, quand j'étais là à 22 heures, que les vents également se levaient. Alors, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux. Les autorités en ont fait part hier, compte tenu qu'il y a des courants, qu'il y a des marées dans la rivière. Et c'est la raison pour laquelle, Alexandre, on va utiliser un sonar, par exemple, parce qu'il y a à peu près une cinquantaine, près de 60 pieds de profondeur ici, la rivière. Et déjà, on a identifié des véhicules, dont une bétonnière au fond de l'eau. Ce que je voyais tantôt sur CNN, notamment, et j'écoutais une porte-parole de l'Agence nationale de transport américaine qui disait que on est monté hier soir à bord du navire. On va remonter aujourd'hui à bord du navire, d'une part pour mener une série d'entrevues auprès de l'équipage, parce qu'il y avait une vingtaine de membres de l'équipage lorsqu'il y a eu la collision. On va les rencontrer un à un. T'as vu, il y a eu cette panne de courant également sur le bateau. On veut comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu une baisse momentanée de propulsion également du navire. J'écoutais un journaliste à CNN ce matin qui parlait de carburant sale. C'est l'une des hypothèses là, qui est mise de l'avant, peut-être pour expliquer cette absence de propulsion. Il y en a discuté également avec une porte-parole de l'Agence de cette sécurité des transports ce matin. Elle ne voulait pas s'avancer ni spéculer autour de l'utilisation de carburant sale à bord de ce navire, le Dali. Alors oui, il y aura une série d'entrevues qui sont menées aujourd'hui avec les équipages, avec les membres de l'équipage, mais également avec des premiers répondants. Et on veut aussi mettre la main, évidemment, sur les fameuses boîtes noires, c'est-à-dire les enregistrements à bord, parce qu'on veut comprendre ce qui s'est passé quelques secondes ou quelques minutes avant l'impact. Tu as certainement vu hier dans les nouvelles, on parlait beaucoup de cet appel Mayday, cet appel de détresse qui a été lancé par l'équipage du navire. Et le gouverneur de l'État du Maryland disait hier que ça a probablement sauvé des vies parce que quand on a reçu l'appel de détresse, ben on a arrêté carrément la circulation sur le pont Francis Scott Key. Et à ce moment-là, ben les automobilistes n'ont pas pu s'avancer juste avant la collision fatale et catastrophique là. Alors le bilan, je te le rappelle, il y a toujours 6 personnes qui manquent à l'appel. Et hier, les autorités disaient qu'il y avait très peu d'espoir de retrouver ces gens en vie. Alors voilà pour l'essentiel des informations qu'on a à transmettre ce matin.
Ouais, c'est un axe névralgique aussi, bon, ce pont, mais le port aussi de Baltimore. J'entendais des gens de la classe politique qui disaient on va reconstruire rapidement. Il y aura des efforts aussi, Yves, qui vont être mis en branle pour reprendre les activités dans le port, parce que là, tout est paralysé, là.
Oui, oui, absolument. Puis je lisais encore des articles ce matin à ce sujet. On dit que quotidiennement, Alexandre, là, ça, ce sont des informations très conservatrices, là, mais on estime que c'est à peu près des pertes de 15 millions de dollars quotidiennes pour le port de Baltimore, parce que toute activité, tu le sais, est gelée en ce moment, suspendue depuis l'accident là, dans la nuit de lundi à mardi. Alors, 15 millions de pertes au quotidien. Et puis ça inclut 1,5 million de dollars en taxes qui sont laissés, qui sont versés taxes locales au quotidien, justement, en raison des activités majeures ici dans le port. Il y a 15 000 emplois directs, 155 000 emplois indirects et directs qui sont liés au port de Baltimore. Est-ce qu'il y aura des conséquences à court ou à long terme, à moyen terme, sur la chaîne d'approvisionnement? Parce que on sait que le port de Baltimore, vous l'avez peut-être lu hier ou entendu, c'est le principal transit là, import-export pour les voitures neuves. L'on dit annuellement, c'est à peu près 800 000 véhicules qui passent par ici. Et quand je m'en venais tantôt vers justement notre point de média, notre zone média, je voyais tous ces véhicules neufs qui attendent justement, qui sont livrés dans le port de Baltimore. C'est impressionnant de voir ça. On va essayer de vous présenter plus tard des images sur les ondes de LCN, là, justement, de ces véhicules en attente au port. Il y a d'ailleurs un gros porte-conteneur là-bas qui, lui aussi, est immobilisé là, depuis l'accident tragique. Alors, les activités sont complètement arrêtées ici. Joe Biden espère qu'humainement possible, on va pouvoir rebâtir rapidement ce pont. Mais entre-temps, la 680 15, là, qui est juste à mes côtés ici, c'est l'artère, cet axe autoroutier qui est crucial, là, ben, c'est fermé et ça va l'être pour encore plusieurs semaines, évidemment, là, avant que les activités reprennent. Alors, c'est l'état de la situation ici en ce moment.
Yves Poirier, envoyé spécial de TVA Nouvelles à Baltimore. Merci pour ta précieuse collaboration, Yves.
Bonne journée, à bientôt.
Salut.